RCF. Bonjour à toutes et à tous. Perrette sur Seine, tête ayant un potelet bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courte vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile. Cotillot simple et souliers plats, notre liétaire ainsi troussé comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un sang d'œuf, faisait triple couvée. La chose allait bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez. Pour avoir un cochon, le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe, adieu, veau, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens quittant d'un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari. En grand danger d'être battu, le récit en farce fut fait, on l'appela le potelet. Et si l'on fait fi du sexisme du XVIIe siècle, nous avons là une fable qui finit tragiquement, mais qui dépeint une agriculture heureuse, où il est encore permis de faire des projets, des investissements, d'imaginer un futur, alors qu'aujourd'hui, si l'on écoute des chiffres, le prix de revient d'un litre de lait de 30 centimes, acheté 20 par les coopératives ou l'industriel, nous poussant à se poser la question de savoir s'il ne vaut pas mieux le jeter et se faire indemniser par des assureurs. Au-delà de cet aspect tragique, il ressort de cette fable un mode de production et de commercialisation quasiment oublié de nos jours. Le produit est bio, car au XVIIe siècle, c'est pas certain qu'il y ait beaucoup de glyphosate. Le produit est vendu en circuit court, car de toute manière, il n'y a pas encore de supermarché ou de coopérative, le seul risque étant, comme dans la fable, qu'il n'arrive pas sur les tables du marché. Circuit court, souveraineté alimentaire, produit bio, du producteur au consommateur, est-ce possible encore et surtout, y aura-t-il encore des agriculteurs et auront-ils encore de la terre à cultiver? C'est ce que nous allons voir. Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à l'Écho des Solutions, de vous retrouver cette semaine depuis le Salon de l'Agriculture. Du bruit autour de vous. Évidemment, on est toujours dans l'attente d'une éventuelle fanfare qui va venir un peu peut-être déranger notre émission. En tout cas, on est très très heureux de vous retrouver. On est sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la technique est assurée encore une fois puisque nous y étions la semaine dernière, mais dans leur studio par RCF Auvergne, et je les en remercie. Au programme de cette semaine, eh bien, nous allons parler, cela ne vous étonnera pas, d'agriculture et plus particulièrement de comment aujourd'hui il est possible de protéger les terres, de s'y installer, d'innover en matière de foncier, d'affronter la question du bio, de l'agroécologie, une diversification des terres plutôt qu'une concentration aussi, c'est au cœur du sujet, c'est ce que l'on va voir avec mes deux invités qui sont là, peut-être plus un qui nous rejoindra tout à l'heure, en tout cas ils sont là tous les deux, Camille Fournier, bonjour Camille.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes autrice d'un livre qui s'appelle Sur le champ, qui vient de sortir aux éditions La Butineuse. Vous y racontez votre parcours de quasiment 10 mois à travers 10 fermes que vous êtes allé visiter, pas simplement en y passant deux journées, mais en y passant à chaque fois à peu près un bon mois de découverte, et vous nous raconterez justement ce que vous y avez découvert. À côté de vous, Maxime Pavlak. Bonjour Maxime.
Bonjour Patrick.
On vous avait découvert à double titre. D'abord, juste après la réception de votre prix pour Éloi, le grand prix de la Fondation Philibert Vaux, le grand prix Philibert Vaux de la Fondation des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et puis aussi sur Toudou, puisque vous menez parallèlement aussi une carrière artistique. Et aujourd'hui, on va évoquer cette question de la transmission de la terre, de l'agroécologie. Et puis on essaiera de voir peut-être plus loin ce qu'il en est de la question du foncier. On voit beaucoup de choses aujourd'hui. On a vu Terre de Liens faire un happening au Salon de l'Agriculture, hein, pour contester le fait que les grands groupes, les grandes enseignes faisaient main basse sur les terres. On verra ça avec vous dans le dossier de l'Écho des Solutions. Et puis bien sûr, nos chroniqueurs, Pierre Collignon, Maxime Dupont. On trouvera aussi Caroline Demallet du Figaro Demain qui nous évoquera la sortie de son supplément papier autour de quelque chose qui n'a rien à voir avec le Salon de l'Agriculture. On évoquera l'escrime comme élément thérapeutique pour les personnes abusées sexuellement et particulièrement pour les femmes. Et puis, bien évidemment, on ouvre tout de suite avec notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Laurent Lély, il est directeur du campus d'AgroParisTech à Clermont-Ferrand. Il est aussi titulaire de la chaire Interaction. On le retrouve tout de suite, c'est notre invité éco de cette semaine.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Voilà, et donc je suis avec Laurent Lély depuis son bureau qui se situe à Gros Parité à Clermont-Ferrand avec cette grande belle baie vitrée. Vous avez de la chance, Laurent Lély, d'avoir cette vue sur les monts d'Auvergne. Bonjour Laurent Lély.
Bonjour.
Vous êtes donc directeur du campus d'Agro Paritech de Clermont-Ferrand, mais aussi directeur de la chaire partenariat et interaction. On a du mal à voir pourquoi Agro Paritech s'intéresse à cette question des territoires. Alors si, on le voit peut-être au travers de l'agriculture, mais pas que.
Oui, c'est une bonne question, parce qu'en fait, donc on est une école d'agronomie, hein, on est un institut d'agronomie qui travaille sur les questions d'environnement, sur les questions d'agriculture, d'alimentation, et le centre de Clermont est un centre dédié aux questions du développement territorial. À la base, on a travaillé en formation continue, donc on formait les cadres du ministère de l'Agriculture à appréhender les politiques agricole nouvelle qui émergeait dans le cadre des politiques européennes, des politiques nationales. Et l'interaction avec les territoires, c'était finalement comment une politique agricole, elle a une résonance, elle a une difficulté à s'insérer dans un écosystème territorial auprès d'acteurs qui n'ont pas forcément la visibilité de ce qu'est une stratégie agricole à une échelle qui n'est pas leur échelle habituelle. Donc l'établissement a la chance, je crois, d'avoir un campus qui s'intéresse à ces questions-là et qui surtout construit des méthodes d'accompagnement pour les acteurs agricoles, mais aussi pour les acteurs territoriaux, qu'ils soient publics ou privés, et pour les aider à la fois à améliorer la qualité de leur politique et puis améliorer les liens qui peuvent s'opérer entre les différents acteurs.
Alors quels sont justement les enjeux pour Agro Paritech ? On va parler globalement, avant peut-être de rentrer sur la notion de territoire, mais quels sont les enjeux pour une école comme Agro Paritech aujourd'hui ?
Alors les enjeux, vous les voyez dans l'actualité, hein, c'est la souveraineté alimentaire, réfléchir à comment on peut continuer à bien nourrir la planète, avoir des produits de qualité, faire en sorte qu'il y ait suffisamment de produits pour pouvoir assurer cette souveraineté alimentaire. Donc il y a un gros axe autour de cette souveraineté alimentaire. Il y a aussi un axe lié justement à des questions de développement durable sur la qualité agricole, faire en sorte que on consomme moins d'eau, moins d'intrants. Vous vous rendez compte à quel point c'est d'actualité aujourd'hui. Donc toutes les réflexions sur la transformation des pratiques agricoles est un enjeu de formation absolument colossal, parce que sont en tension, en friction des modèles qui n'ont pas forcément envie de dialoguer entre eux. Et tout le boulot de l'apprentissage et de la formation, c'est de former des esprits justement à regarder tous ces modèles-là.
Et c'est des futurs ingénieurs ou c'est des futurs agriculteurs que vous formez ?
Les deux. Mmh. On forme à la fois des experts qui accompagnent les politiques agricoles en France, en Europe, à l'international. On forme des jeunes qui veulent s'installer dans les différents modèles, du maraîchage jusqu'à l'entreprise agricole la plus moderne. Donc on a cette responsabilité de regarder tous les prismes agricoles et de former à travers ça. Mmh.
Une formation qui s'enracine aussi dans la question des territoires, parce qu'évidemment la question ultime est primordiale, même c'est même pas ultime, elle est primordiale pour toute démarche agricole, c'est le foncier, c'est la terre. On le voit bien aujourd'hui, peut-être un peu moins aujourd'hui, peut-être que ça se démocratise un petit peu plus, la question de l'acquisition du foncier. Pendant un moment, ça a été d'une extrême complexité pour un agriculteur qui voulait s'installer, voire même pour les fameux NINA, les fameux ceux qui arrivent de nulle part, qui étaient fils de médecin ou d'ingénieur et qui tout d'un coup destinent de venir cultiver la terre.
Alors je pense que c'est un enjeu encore absolument colossal, parce qu'en fait la question du foncier est liée avec la courbe de disparition du nombre des agriculteurs. On va encore avoir beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite et qui auront énormément de mal à trouver des repreneurs. Mmh. Et donc la question du foncier, c'est aussi un enjeu et d'enseignement et de recherche très, très, très important. C'est aussi un élément qui résonne avec les territoires de manière très anecdotique, mais ça n'est pas tant que ça. Aujourd'hui, le foncier agricole, quand il n'est pas repris par des Français, il est racheté par des Chinois. Mmh. et pour des raisons qui sont très très loin de...
On sait la proportion aujourd'hui de foncier agricole? Non, on ne peut pas le savoir.
Non, c'est très très compliqué. On a des...
À un moment donné, ils investissaient beaucoup dans les vignes. Ouais. C'était le principal foncier racheté par les Chinois, peut-être parce qu'ils aimaient notre vin,
ou
parce qu'ils voyaient de la spéculation.
Il y avait une approche emblématique d'aller chercher de la spéculation sur les vignobles. Aujourd'hui, ils achètent les fonciers les plus délaissés. On a les fonciers les moins chers d'Europe, notamment sur le Massif central. Et en fait, on les voit, ils spéculent sur l'anticipation du paiement de la taxe carbone. Donc en fait, ils rachètent du foncier, pas pour faire de l'agriculture, ils rachètent du foncier pour le stockage carbone.
C'est ça, pour le stockage carbone, et se dire ce qu'on a là va nous permettre de faire une déduction fiscale, hein, tout simplement. Mais c'est plutôt que de faire un rescrit fiscal papier, ce sera un rescrit fiscal en surface de terre.
C'est ça, et ça pour les territoires, c'est dommageable. Parce que effectivement, ça prive des gens qui auraient envie de s'installer, de cette capacité d'acquisition du foncier et de dialoguer aussi avec les territoires pour pouvoir s'installer. Donc ça, ça fait partie des éléments de complexité qui marquent les stratégies foncières.
Comment on peut aider justement les collectivités et les territoires à mieux comprendre? C'est le rôle peut-être d'AgroParisTech de pouvoir accompagner ces territoires dans cette forme de mutation, parce qu'on l'a vu, il y a le foncier, il y a les urbains qui viennent à la campagne, qui achètent du foncier. Bon, ils achètent une maison de campagne avec du terrain, mais il y a aussi ces fameux repreneurs de terres agricoles qui arrivent et qui arrivent parfois de nulle part et certainement pas de la région.
Oui, alors c'est vrai. Alors il y a des structures qui accompagnent aujourd'hui à la reprise du foncier. Il y a des structures comme Terre de Liens qui sont intéressantes parce que à la fois elles prennent le temps de comprendre si le projet que l'acteur A, du point de vue agricole, est un projet solide. S'il n'est pas suffisamment solide, quelle formation on peut lui donner pour qu'il acquiert très très vite ce qu'il faut pour le réaliser, et puis qui aide à trouver le foncier qui correspond au projet. Donc il y a des structures d'interface qui font le lien, et les élus sont d'ailleurs contents d'avoir ces intermédiaires, parce que ça évite d'avoir des projets où finalement vous installez quelqu'un, 3 ans après il est au RSA, il ne vit pas de son activité, il s'en va. Donc je pense que c'est plutôt le rôle de ces structures-là d'être facilitatrices. Nous, du point de vue de la recherche, ce qu'on regarde, c'est une approche un petit peu plus macro, c'est-à-dire pourquoi on vient, sur quelle motivation on fonde ce désir d'installation, et puis s'il y a par exemple des valeurs d'installation à l'agroécologie, de quelle agroécologie on parle et techniquement elle se réfère à quoi. Donc on est vraiment plutôt sur une compréhension du système, une compréhension de la posture d'engagement dans un territoire.
Merci beaucoup Laurent Lely d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous, on continue tout de suite avec la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et on se retrouvera depuis le salon de l'agriculture. Alors vous voyez, on n'est pas Star Trek ici, on passe d'un bureau face au Mont d'Auvergne au salon de l'agriculture à Paris avec tous nos invités pour continuer à parler de la question du foncier. Nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Voilà, et on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors, malgré une actualité dense en ce début de mars où la réforme des retraites et le projet de la loi sur le partage de la valeur envahissent tous les espaces, vous avez décidé de nous parler du carême. Quel rapport avec le Schmilblick, si je puis dire?
Je vous l'accorde, le sujet peut paraître lointain, mais lorsque l'on est entrepreneur et dirigeant, on a tout de même le droit d'être chrétien. Et si c'est le cas, cette question vient naturellement à l'esprit. Que faire de mon carême dans ma vie déjà bien remplie et souvent stressante? Comment est-ce que je peux utiliser ce temps qui m'est donné pour me préparer à la Semaine Sainte qui, comme vous le savez, est une montée vers la résurrection?
Alors précisément, comment voyez-vous cela?
C'est pas à vous que je vais l'apprendre, Patrick. Le carême est un temps de conversion. Dirigeant d'entreprise, entrepreneur ou salarié, nous sommes tous invités à nous donner des moyens concrets dans la prière, la pénitence et l'aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie.
Alors,
pendant ces 40 jours, l'Église nous encourage à nous recentrer sur l'essentiel.
Alors excusez-moi, je vous coupais, j'étais trop pressé. C'est un temps donc de mise à l'écart pour faire silence et être réceptif à la parole de Dieu.
Oui, mais l'Église ne nous demande pas de quitter le monde, ni même de partir au désert, mais dans le monde dans lequel nous vivons, simplement, et c'est déjà assez difficile, de ralentir un peu, de prendre plus de temps pour redécouvrir l'essentiel.
trouver une forme de sérénité en quelque sorte.
Voilà, en se remettant dans les mains de Dieu et en se sachant aimés de lui tel que nous sommes, avec nos fragilités et nos talents. Mais attention, il ne s'agit pas de se créer un petit cocon apaisant, vous voyez, ni même de prendre un temps excessif pour rechercher un bonheur personnel et égocentré. Non. Dans la vision chrétienne, il faut parler de paix intérieure, d'égalité de l'âme face aux contrariétés. Il ne s'agit donc pas de se soustraire aux nécessités concrètes de ce monde, mais plutôt de chercher la paix dans l'espérance et dans la charité, accepter ce qui se passe, freiner nos impatiences, peut-être aussi renouer avec notre nature profonde et vivre pleinement hic et nunc, comme disaient les Latins, ici et maintenant, exprimer notre gratitude et puis aussi évacuer nos rancunes.
Cela donne donc une répercussion sur son comportement.
Oui, mais à une condition, prendre encore plus de temps dans cette période pour lire et relire la parole de Dieu. Comme vous le savez, le premier mot de la règle de Saint Benoît, écrite en l'an 535 de notre ère, est un impératif, un ordre, voire même un commandement. Écoute, c'est l'invitation faite aux moines au commencement de chaque jour de tendre l'oreille à la parole de Dieu. La prière est silencieuse. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Seigneur, parle, ton serviteur écoute, dit le jeune Samuel de la Bible. Eh bien, c'est l'attitude essentielle du priant, du croyant qui reçoit tout de l'autre. Et c'est pourquoi au commencement de ce carême, je crois que c'est une piste, en tout cas c'est la piste que je veux proposer bien humblement, bien sûr, à tous mes frères qui sont en position d'exercer des responsabilités, à tous mes frères et sœurs qui sont en position d'exercer des responsabilités, écoute la parole de Dieu, elle t'inspirera, elle te guidera, elle te conduira et elle te révélera la volonté de celui qui te sauve, te guérit, te relève et te réjouit.
Merci beaucoup Pierre Collignon. On se retrouve nous la semaine prochaine et sans transition, on retourne sur le salon de l'agriculture pour retrouver tous nos invités et parler du foncier dans l'agriculture. C'est une autre vision peut-être du carême. En tout cas, merci beaucoup Pierre Collignon, à très bientôt. Vous êtes bien sûr RCF, on continue tout de suite en ouvrant le dossier de l'écho des solutions. Vous l'entendez, on est depuis le salon de l'agriculture et on se retrouve avec nos invités pour parler de l'importance de la terre et de la transmission avec Maxime Pavlak et Camille Fournier.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine, un dossier qui est consacré à l'agriculture, vous l'aurez compris, mais plus particulièrement à ce qui fait que l'agriculture est, c'est-à-dire la question de la terre, car sans terre, point de salut, je crois que dans l'agriculture, même si on fait du hors-sol, on peut cultiver hors-sol, hein, Camille, Maxime.
Tout est possible.
Tout est possible dans l'agriculture.
C'est pas forcément ce qu'on accompagne, mais tout existe.
Tout existe. En tout cas, l'essentiel pour cultiver, c'est la terre. Et si on n'a pas de terre, c'est compliqué de cultiver. On va commencer, et puis peut-être nous rejoindra le vice-président d'Aix-Marseille Métropole. Vous savez, commencer sur le salon de l'agriculture, il y a de la démonstration. Il y a aussi beaucoup d'enjeux politiques. Et sur un stand de Métropole, il est important aussi que les élus soient présents pour pouvoir défendre leurs intérêts. Peut-être viendra-t-il nous parler de souveraineté alimentaire d'ici la fin de l'émission. Je vais commencer avec vous, Camille, parce qu'en fait, ce qui est très intéressant dans votre ouvrage sur le champ, c'est que vous avez fait le choix d'aller à la rencontre d'une dizaine d'agriculteurs sur l'ensemble du territoire français, de diverses typologies d'agriculture, du bio, de l'ovin, du bovin, vraiment toutes les typologies. Et plutôt que de butiner, d'ailleurs même si la maison d'édition s'appelle la butineuse, vous êtes vraiment enraciné dans les terroirs pour découvrir pendant 21 jours dans chacune de ces exploitations, chez chacun de ces agriculteurs, leur vie au quotidien.
J'ai envie de vous poser la première question. Au bout de ces 10 mois, puisque ça a duré 10 mois, certains vont faire le tour du monde, vous l'avez fait en France. Au bout de ces 10 mois, quel enseignement vous tirez, Camille ?
C'est intéressant vraiment en partageant leur quotidien et en travaillant à leur côté de se rendre compte qu'être agriculteur c'est vraiment un métier très pluriel avec vraiment différentes casquettes. On produit de l'agriculture, donc des légumes, du lait, du fromage, de la viande, mais on fait aussi la vente, on fait aussi parfois de la transformation, on fait de la compta, on fait de l'administratif, on fait du marketing, on fait de la communication. C'est vraiment un métier qui a multifacettes et c'est pour ça en partie que je les admire.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette idée d'aller voir ces agriculteurs ? Vous vouliez vous-même être agricultrice et vous ne saviez pas quel était le champ de compétences dans lequel vous vouliez développer. Pourquoi cet attrait pour ces dix agriculteurs, ces 10 exploitants ?
Je suis partie d'un constat qu'il y avait un peu un grain de sable qui s'était mis dans l'engrenage parce que selon moi c'était le plus beau métier du monde car c'est le métier qui nous nourrit 3 fois par jour. Mais aujourd'hui on parle d'un suicide par jour en France d'agriculteurs. On parle que voilà avec des salaires qui sont parfois très bas, une profession qui est plus très attractive parfois pour la jeunesse. Et donc j'ai voulu vraiment comprendre en le vivant comment l'agriculture pouvait aussi être positive, avoir une vision du métier sous sa belle facette, aussi de voir des personnes qui font différemment, qui innovent, qui se remettent en question pour proposer voilà, une manière différente de cultiver la terre.
Maxime Pavlak, vous êtes le fondateur, cofondateur d'Eloi. Vous avez reçu donc, dans l'invité éco du mois de décembre, au moment où vous receviez le grand prix Philibert Vraud de la Fondation des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, l'envie de vous intéresser au monde de l'agriculture ? Vous êtes issu du monde agricole à la base ou vous l'avez découvert par vos études ?
Ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre.
Ah ben voilà. Non. C'est vraiment... moi, j'étais dans le digital. J'avais monté une entreprise dans ce secteur que j'ai revendu. Et en fait, autour de la quarantaine, j'ai eu envie d'avoir plus d'impact environnemental et sociétal, d'être plus en phase avec mes valeurs profondes et de me dire, OK, je retente une aventure entrepreneuriale, mais j'ai envie que l'impact soit massif et si possible régénératif. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà de réduire les émissions, les dégradations, il faut régénérer. Et dans quel secteur est-ce qu'on peut le faire ? En recherchant, en rencontrant des gens, j'ai compris qu'à travers l'agriculture, on pouvait le faire.
Alors vous avez compris comment ? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné ? Ça a été un reportage, ça a été une rencontre, ça a été la lecture d'un ouvrage. Pourquoi l'agriculture ? Parce que vous auriez pu aller sur d'autres terres, sans mauvais jeu de mots.
C'est vrai. Je me suis intéressé à l'énergie, à d'autres choses. Oui, c'est des reportages, c'est des livres. J'ai lu notamment le livre de Charles Avégruyer, qui est le fondateur de la ferme du Bec-et-Loin, où il présentait cette idée qu'on a derrière déclinée en grappe de ferme, qui était de dire on peut regrouper plusieurs exploitations sur un même site de production pour qu'il y ait une complémentarité entre des cultures animales, végétales, du maraîchage. C'est un peu parti de là. Et ensuite, beaucoup de rencontres. Parce que forcément, quand on n'est pas du secteur et qu'on vient avec des idées un peu lointaines, bah, il faut les confronter à la réalité.
Alors justement, Camille, la question de l'installation, vous avez vu des jeunes agriculteurs qui ont racheté des terres, certaines des terres familiales, d'autres se sont installées. Justement, quand on n'est pas du milieu, je l'entendais sur un stand hier d'une femme qui était installée déjà, mais son mari est décédé, elle reprend l'exploitation, elle dit « j'en ai bavé ». Quoi. Donc aujourd'hui, l'installation, c'est quelque chose qui est compliqué pour des jeunes agriculteurs qui ont envie, mais, et qui, comme un peu Maxime, même si Maxime n'est pas installé en agriculture, mais travaille dans le domaine de l'agriculture, arrive parfois avec une culture peut-être d'enseignant ou de cadre dirigeant, parce que c'était le milieu familial.
C'est très technique. J'aime bien parler d'un parcours du combattant, parce qu'en effet, il y a pas mal d'embûches. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas faciles tout le temps à identifier. C'est long, hein, on compte entre 8 à 18 mois pour s'installer sur une ferme. Et donc c'est pour ça justement que chez Eloi on joue un rôle pour les accompagner, en fait, leur faciliter un petit peu la vie de l'installation pour qu'ils arrivent jusqu'au bout, jusqu'à l'installation et jusqu'à poser les valises dans la ferme.
Alors parce qu'on n'a pas dit à nos auditeurs, vous êtes autrice de l'ouvrage mais vous travaillez aussi chez Eloi. Alors justement, pourquoi 18 mois, dites-moi, pourquoi 18 mois pour s'installer et prendre l'ampleur
Il y a différentes étapes dans la recherche de financement bancaire, la demande d'aide à l'installation, la constitution d'un prévisionnel avec les centres de gestion. Et puis parfois aussi ça passe par un stage de parrainage sur l'exploitation qu'on reprend. Donc ça peut prendre entre 3 et 6 mois un stage de parrainage. Donc c'est ces différentes étapes qui font qu'on chemine petit à petit mais qu'on ne s'installe pas en un claquement de doigts.
Dans ce que vous avez pu observer dans votre ouvrage sur deux champs, est-ce que les agriculteurs d'aujourd'hui sont plutôt des aquabonistes, c'est-à-dire à quoi bon, de toute manière on est foutu, ou plutôt des personnes qui ont cette foi chevillée au corps et qui se disent non, c'est pas foutu, on peut changer nos pratiques, on peut peut-être trouver de nouvelles dynamiques.
Ah non, mais nos agriculteurs sont absolument géniaux, c'est ceux qui se remettent le plus en question tous les jours parce que d'une part, ils sont confrontés aux aléas climatiques, à la météo qui change en permanence, donc ça les stimule pour trouver des solutions et faire différemment. Ils innovent aussi dans les circuits, ils innovent dans la transformation, ils innovent dans la manière de communiquer aussi pour être capable de créer un lien avec le grand public, de faire comprendre leur métier. Donc oui, non, ils sont hyper persévérants et je pense que leur passion les aide beaucoup pour y arriver.
Maxime Pavlak, justement, vous prenez l'agriculteur au début et à la fin, c'est-à-dire à la fin puisque vous rachetez du foncier pour le revendre et au début pour...
Alors, on ne rachète pas le foncier, mais effectivement, on accompagne les cédants, donc les agriculteurs qui veulent transmettre leur ferme, et on les aide à projeter, à adapter leur ferme aux attentes d'une nouvelle génération d'agriculteurs. Effectivement, cette nouvelle génération, on les connaît bien, on les accompagne. On a plus de 1300 aujourd'hui qui sont inscrits sur notre plateforme. On connaît leur projet parce qu'on leur a parlé. Et on constate qu'aujourd'hui, leurs attentes ne correspondent pas aux fermes à transmettre. Mmh. Il y a une décorrélation entre l'offre et la demande, en gros. Donc nous, notre métier, c'est quoi ? C'est de venir les aider, ces cédants, à réfléchir à une reprise au-delà de la reprise à l'identique. Et là, il y a un travail technique de se dire, OK, sur cette ferme, quels sont les bâtiments ? Quel est le foncier ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça corresponde mieux aux attentes de ces jeunes ? Et il y a un travail aussi psychologique, parce que renoncer à ce que faisait la ferme depuis 4 générations, c'est pas facile, même si ils ont quand même chevillé au corps l'idée de se dire j'ai envie qu'un jeune soit installé.
Alors quelle pédagogie il faut mettre en place justement, quelle est votre méthodologie pour les accompagner, pour éviter cette rupture qui est une qu'on pourrait comparer d'ailleurs à la rupture d'une personne âgée quittant son domicile pour l'EHPAD, c'est-à-dire on va être obligé d'accompagner au changement de vie, au changement de perspective, au changement de rythme, que la vie ne sera pas comme avant et que l'appartement dans lequel on a vécu 40 ans sera habité par quelqu'un d'autre. C'est un peu ça en fait.
Alors, oui, quelle pédagogie alors, vous mettez en place ? Le premier truc aujourd'hui, c'est qu'on leur apporte une solution pour éviter que la ferme parte à l'agrandissement. L'agrandissement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la ferme et les bâtiments sont abandonnés, les terres sont reprises par des voisins, que parfois ils n'aiment pas. et donc, déjà, ça serait le plus grand deuil. Donc déjà, quand on leur apporte l'idée qu'il y a des solutions qui existent, qu'on va pouvoir installer un jeune, c'est un soulagement pour eux. Ensuite, effectivement, si ça change de production, ça veut dire peut-être le cheptel, il va falloir le vendre séparément, il ne va pas rester sur la ferme. Donc ça, c'est difficile. Et la manière de les accompagner demande une délicatesse. C'est l'un des métiers que fait Camille au quotidien.
Oui, alors qu'est-ce que vous faites justement avec cette délicatesse ? Vous les accompagnez comment ? Pourquoi ?
Déjà par l'anticipation, par la réflexion, parce que c'est vrai que quand on déménage de la ferme, en fait, on quitte à la fois un lieu de travail et un lieu de vie. Donc il faut avoir pensé à une nouvelle maison, à un nouveau lieu de vie pour construire aussi la retraite. Et puis voilà, on réfléchit avec eux à leur philosophie de transmission. Qu'est-ce qu'ils veulent sur la ferme ? Qu'est-ce qu'ils ont en tête ? Est-ce qu'ils sont prêts à accompagner le repreneur ou non ? Mmh. Ils ont le choix. Est-ce qu'ils veulent absolument qu'il y ait de l'élevage en bovin lait ? Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut réussir à faire. Est-ce qu'ils sont prêts à avoir un changement de production, que ce soit plutôt demain des chefs qui soient sur la ferme ? C'est quelque chose qu'on peut garantir. Et puis, beaucoup d'agriculteurs qui nous contactent sont déjà sont en bio et veulent que la ferme reste en bio. Et ça, on l'inscrit dans un cahier des charges quand on les accompagne.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous co-construisez de ce que deviendra la ferme et vous le respectez en fonction des acquéreurs que vous aurez, Maxime ?
Oui, en fait, on connaît très bien le marché, entre guillemets, des jeunes qui veulent s'installer. On les connaît, eux ne les connaissent pas. Donc, on vient les aider. Mais il n'y a personne qui connaît mieux leur ferme qu'eux-mêmes.
Bien sûr.
Ils savent très bien ce qu'on peut faire pousser ou pas, quel type de production on peut mettre. Donc nous, on vient les aider sur la connaissance du marché. Eux nous aident sur la connaissance de la ferme et ensemble, on co-construit les possibles projets de transmission. Mmh. Parfois, il n'y en a pas un seul.
C'est ça, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs des projets de transmission. Dans l'ouvrage et dans les dix portraits que vous avez effectués, est-ce qu'il y en a un qui vous a touché plus particulièrement par rapport à son rapport à la terre ?
Je trouve ça intéressant, justement. C'est le premier chapitre, celui qui nous plonge vraiment dans l'agriculture. C'est François, un agriculteur qui est installé en Maine-et-Loire avec de l'agriculture de conservation des sols. Et quelque chose qui m'a vraiment marqué donc, dès ce début d'aventure, qui est vraiment de... Il faut considérer la terre comme une maison, en fait, avec un toit qu'il faut protéger. Et puis avec beaucoup de... d'habitants en fait qu'on nourrit tous les jours avec la terre, qui travaillent gratuitement pour l'agriculture. Il l'appelait son troisième cheptel, à savoir les vers de terre qui travaillent gratuitement pour lui. Et je trouve que cette première image est assez marquante et c'était un peu un fil conducteur pour tout le livre. Mmh.
Justement, vous parliez tout à l'heure de cette notion de terre, cette notion de ferme en grappe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, sur une même terre, des grappes de ferme, pardon, pas des fermes en grappe, des grappes de ferme, ça veut dire que sur un même territoire, vous allez essayer de proposer une diversité. On parlera peut-être tout à l'heure de la souveraineté alimentaire, mais elle est au cœur aussi de ces projets de territoire. Les grappes de ferme, elles servent à proposer finalement une large palette de produits sans intensifier trop l'agriculture sur un produit en particulier.
Oui, alors, comme on le disait, notre métier, c'est d'adapter les fermes pour qu'elles correspondent aux attentes des jeunes. L'une des façons de le faire, c'est de changer la production, de la faire évoluer. Mais une autre manière, ça peut être que sur des fermes qui étaient trop grandes, trop chères, on a l'opportunité de créer plusieurs lots, en fait, plusieurs unités foncières cohérentes pour installer plusieurs projets complémentaires. Mmh. Sur une ferme qui faisait par exemple 100 hectares en Beauvalais, on a la place d'installer un élevage caprin, parce qu'un élevage caprin, ça demande moins de surface, moins de terre. Par exemple, ça peut être entre 30 et 60 ou 100 hectares, mais on peut faire un atelier de caprin sur 50 hectares. Et il nous reste 50 autres hectares sur lesquels on peut mettre des cultures, cultures paysan-boulanger, paysan-meunier. Et puis, s'il y a 5 hectares de bonne terre avec de l'eau, on peut aussi mettre du maraîchage. Mmh. Et en fait, on installe des entités qui sont indépendantes l'une de l'autre. La grappe de ferme, c'est pas une association, c'est pas un collectif, c'est vraiment chacun est chez soi, proche voisin, et sur la base de son indépendance, crée des synergies agronomiques et d'entraide humaine.
Alors, on en parlait avec Laurent Lély lors de l'enregistrement de l'invité éco. La question du territoire, comment on embarque aussi les collectivités dans cette question-là? Parce que c'est bien d'avoir cette bonne idée, c'est bien de le proposer, c'est bien d'agir. Mais si les collectivités locales et publiques ne le veulent pas, ça peut être plus compliqué et plus complexe. Comment on les embarque dans un projet comme ça?
Toutes les collectivités aujourd'hui, elles ont l'enjeu de produire localement pour nourrir les populations locales. C'est le plan alimentaire territorial. C'est quelque chose qui préoccupe les collectivités au sens commune, mais aussi les régions. Et donc, on a globalement un soutien politique majeur sur tous les territoires où on peut agir. Mmh. Pour remettre une agriculture qui va aller servir à distribuer localement, plutôt que d'avoir une logique de territoire de monoculture ou de monoproduction qui va ensuite aller à l'exportation. Mmh. Je pense qu'on va vraiment là dans un mouvement de souveraineté alimentaire territoriale et locale, et apporter de la diversification sur les fermes en amenant par exemple le principe de grappe de ferme assure cette souveraineté. D'autant que quand vous êtes deux ou trois ateliers complémentaires, vous pouvez aller faire du circuit court plus facilement, parce que vous mutualisez les moyens de distribution pour aller au marché, pour livrer une boutique de
producteurs. Comme Perrette. Hein.
Voilà,
comme Perrette.
Voilà, sauf qu'il y a plusieurs Perrettes et voilà, on travaille ensemble.
Et quand il y en a une qui tombe,
il y a l'autre qui la relève.
Voilà, exactement, la question de la solidarité. La solidarité, c'est au cœur de la problématique aujourd'hui de l'agriculture. Est-ce qu'il y a une vraie solidarité paysanne? Ou est-ce que c'est un peu le chacun pour soi, comme on pourrait le voir par exemple dans Manon des Sources, où on bouche la source histoire que la terre ne soit pas fertile?
C'est vrai qu'en évoluant dans le monde agricole, j'ai vraiment observé au quotidien une vraie solidarité entre voisins, entre agriculteurs, déjà par la CUMA en fait. Ils partagent le matériel agricole, par les circuits courts, ils s'entraident sur les marchés, ils s'entraident pour les livraisons, ils s'entraident pour amener les animaux à l'abattoir, pour aller les récupérer. C'est vraiment en fait une mutualisation des tâches et une entraide qui est permanente, et je pense que c'est nécessaire en fait quand on est agriculteur.
Ouais. Maxime, vous avez choisi de vous spécialiser en accompagnement sur l'agroécologie. Pourquoi l'agroécologie? Toujours cette notion d'impact, parce que aujourd'hui, et on peut essayer de ne pas faire d'opposition, et on posera peut-être la question à Camille après, mais il y a toujours ce risque d'opposer le bon agriculteur qui fait du bio et de l'agroécologie au mauvais agriculteur qui fait pas moins bien que les autres, mais qui utilise peut-être un peu de phytosanitaire, mais qui en même temps fait pas de culture intensive et qui est pas plus dangereux que ça, quoi.
Derrière l'agroécologie, on embarque un certain nombre de pratiques qui vont dans le respect de l'environnement et dans le respect des animaux et dans le respect des hommes. Donc c'est assez large. C'est pas un label, l'agroécologie.
D'abord, qu'est-ce qu'on met derrière le terme agroécologie?
Justement, c'est un ensemble de pratiques. Par exemple, faire de l'agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire réduire ou arrêter les labours, participe de l'agroécologie parce que ça stocke du carbone dans les sols. Mmh. Faire de l'agroforesterie, c'est-à-dire planter des rangées d'arbres entre les champs, pour stocker du carbone, pour recréer de la biodiversité, c'est de l'agroécologie. Faire du bien-être animal participe à l'agroécologie. Mais le label bio est aussi, on peut le ranger dans l'agroécologie. Donc déjà, on n'a pas une vision... Donc,
l'agroécologie, c'est pas un truc qui est enfermant, c'est au contraire, c'est l'accumulation de toutes les pratiques de bon sens paysan qu'on a depuis des années, remises un petit peu au goût du jour autour d'un seul terme.
Voilà, dans un objectif d'impact quand même. Voilà, si aujourd'hui les jeunes reviennent à la terre, c'est pour trouver un métier qui a du sens et de l'impact. C'est aussi pour ça qu'on a monté Eloi. Donc l'idée derrière ça, c'est de se dire, on embarque les jeunes vers ça sans opposer évidemment. Mais aujourd'hui, pourquoi il y a tant de jeunes qui s'inscrivent sur la plateforme Eloi? C'est parce que s'ils vont vers ce métier, c'est parce qu'ils veulent aller vers ces pratiques. Donc on répond à cette attente et on le fait de manière intelligente, en essayant de ne pas enfermer dans un seul label, dans une seule pratique, ni d'opposer. Je suis convaincu que toutes les typologies de production et d'exploitation agricole vont pouvoir aller vers plus d'agroécologie. Pour les plus grandes d'entre elles, ça pourrait être à travers de la technologie, etc. Pour les plus petites, c'est des actions de bon sens, etc., de la réduction de phyto, de la replantation d'arbres. Mais tout le monde peut contribuer, tout le monde doit contribuer à aller vers cette transition.
Camille, est-ce que cette question du bio, de l'agro, c'est toujours de l'agroécologie, c'est toujours au cœur, en se disant il faudrait peut-être qu'on y aille, mais c'est peut-être compliqué d'y aller, de cette peur, ils sentent bien cette nécessité d'y aller, mais est-ce qu'on va savoir gérer? Et puis il faut 3 ans pour pouvoir passer en bio. Est-ce qu'on a la trésorerie pour le faire? Est-ce que cette question-là, elle est aussi au cœur? Est-ce que vous l'avez entendue au fil de votre pérégrination et de vos voyages?
Bien sûr, c'est sûr qu'on marche sur un fil en fait en permanence. Est-ce qu'il y aura les bons débouchés? Est-ce que les sols, ça va bien marcher? Est-ce que les animaux vont bien vivre le changement? Enfin, il y a vraiment beaucoup de questions. Et je trouve que justement votre question est très pertinente pour montrer en fait que nos agriculteurs sont en plein questionnement en permanence en fait. Et c'est les premiers écologistes en fait. Donc c'est ceux qui cherchent à faire mieux en permanence. Donc oui.
Et pourtant ils sont pointés du doigt en permanence. C'est-à-dire, moi je me souviens d'un ami qui a des vergers. Il est sur le bord de la Loire. Il va prendre l'eau pour arroser dans la Loire directement. Donc il pompe pas les nappes phréatiques. Il prend là où il y a de l'eau, où il y a de l'eau en majorité et ces ouvriers se font insulter.
C'est parce qu'il y a une méconnaissance du métier et c'est pour ça en fait qu'il faut vraiment ouvrir les portes des fermes, communiquer, partager sur le vécu au quotidien en tant qu'agriculteur pour informer les jeunes générations, informer les moins jeunes générations aussi et créer du lien en fait entre ces deux mondes qui sont loin d'être hermétiques.
C'est ce qu'on découvre un peu dans votre livre.
Totalement.
Fait, c'est ça. Quel est le portrait qui vous a le plus touché, celui où vous... Voilà, vous vous dites il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas ailleurs.
J'ai travaillé dans une ferme ESAT dans les Landes, donc un lieu d'accueil de personnes en situation de handicap psychique, qui justement était réinsérées professionnellement grâce au travail de la terre. Mmh. Et ce qui m'a marqué, ce que je trouve génial, c'est que l'agriculture en fait est super inclusive. Quand on a les mains dans la terre, on est tous totalement égaux. On sait même pas qui est en réinsertion et qui ne l'est pas. Et en fait, ça crée un lien très fort. Et je trouve que c'est encore un exemple qui montre que l'agriculture est très variée et que ça peut vraiment fédérer tout type de projet.
Maxime, est-ce que vous êtes confronté, on parlerait de la souveraineté alimentaire, il y a aussi la souveraineté de la terre. Laurent Lély nous disait que des pouvoirs étatiques achetaient, on a vu la Chine acheter des centaines d'hectares de vignobles à un moment donné. Il disait aujourd'hui ils achètent de la terre qui vaut rien, parce qu'ils préparent la taxation carbone et que donc s'ils possèdent de la terre chez nous en France, ils se dédouaneront en fait de pouvoir polluer ailleurs. Est-ce qu'il y a une bataille? Est-ce que vous sentez, vous, cette bataille autour de la surface de terre?
Sur les terres, c'est clair qu'il y a de la concurrence et il y a une spéculation qui existe. Le sujet chez Eloi, c'est qu'on essaye de transmettre les fermes et c'est une manière d'y répondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la terre est à vendre, c'est parce que la ferme n'a pas pu être transmise. La ferme, j'entends, avec les bâtiments agricoles reprises pour une activité agricole. Donc justement, une manière de lutter contre ça, c'est d'offrir aux cédants, vendeurs de fermes, une alternative à l'installation avec des jeunes pour éviter qu'ils se retrouvent à devoir ensuite vendre ces fermes à l'agrandissement. Et qui rachète les terres à l'agrandissement? Effectivement, là, on a affaire à des corporations qui vont aller vers l'accaparement de ces terres si on fait rien.
Alors notre intervenant qui nous a pas rejoint malheureusement, vice-président d'ex-Marseille Métropole, nous disait aussi qu'il y avait la possibilité aussi de revaloriser les friches, c'est-à-dire qu'il y a des terres aujourd'hui qui sont laissées à l'abandon et qui pourraient être revalorisées dans le cadre d'une souveraineté alimentaire. Alors cette fois-ci, il y a pas ou peu de propriétaires, enfin, il y a peut-être des propriétaires, mais ils les oublient. Ça peut faire partie aussi d'un projet de développement pour Éloi ou pas?
Oui, on est sollicité par des collectivités territoriales effectivement sur ce type de projet parce que eux peuvent avoir des difficultés à trouver des repreneurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui les candidats à l'installation, ils sont mobiles inter-région. Donc c'est pas un sujet hyper local. Quand on est candidat à s'installer en agriculture, on veut une bonne ferme adaptée à son projet. On est prêt à bouger de région. Mmh. Donc c'est vrai qu'on travaille avec des collectivités territoriales, soit pour des diagnostics de transmission, préparer les cédants à réfléchir au-delà de la reprise identique, soit pour justement revaloriser des terres, soit des friches, soit des terres urbaines.
Et Camille, vous accompagnez aussi ceux qui reprennent derrière ?
Totalement, en fait.
Parce qu'il y a aussi, une fois que c'est cédé, il faut pouvoir reprendre et faire que tout fonctionne, qu'il y ait une harmonie.
Nous, en fait, on pose les bases pour que ce soit une installation réussie et pérenne, que la ferme soit viable et qu'ils puissent vivre de leur métier, en fait, tout simplement. Et ensuite, on va suivre en fait leur évolution agroécologique, les pratiques qu'ils vont mettre en place sur la ferme de manière à l'améliorer dans les 5 premières années.
Vous repartez avec quoi de ces 10 mois de pérégrination que vous n'avez pas fait seul, hein? Vous êtes partie à deux quand même. Hein.
Je suis partie à deux et je repars avec une passion pour le monde agricole et une fascination pour ces héros en fait qui nous nourrissent 3 fois par jour. Et c'est pour ça aussi que je m'engage chez Éloi pour permettre que les fermes soient reprises et qu'on garde une France qui est agricole.
Les fameux héros anonymes que très cher à Frédéric Bedos et au projet Imagine en particulier, parce que sans eux, qu'est-ce qu'on mangerait? Merci beaucoup Camille, merci beaucoup. Je rappelle votre ouvrage Sur le champ aux éditions La Butineuse, si vous voulez vous plonger dans votre voyage au travers de nos exploitations agricoles. Maxime Pavlak, merci beaucoup pour votre présence. Nous, on continue tout de suite l'écho des solutions avec Maxime Dupont pour sa chronique à Max Déco.
Maxime Dupont.
Voilà, il n'est pas non plus avec nous au Salon de l'Agriculture, Maxime Dupont, mais il est là avec nous par les biais du numérique. Bonjour Maxime.
Bonjour Patrick.
Alors, l'Institut CSA a réalisé pour la Fédération française des banques alimentaires une étude, et c'est ce dont vous voulez nous parler aujourd'hui, une étude qui s'intéresse aux profils et motivations des personnes qui ont recours aux banques alimentaires. Et dans cette période d'inflation plus forte que ce que nous avons connu depuis des dizaines d'années, cet éclairage est particulièrement bienvenu. Première question donc, Maxime, existe-t-il un profil type de ces personnes qui bénéficient de la banque alimentaire?
Oui Patrick, on peut même parler d'un profil moyen avec des gens qui vivent quasiment tous sous le seuil de pauvreté, qui habitent pour la moitié d'entre eux dans un HLM et qui vivent pour la moitié aussi de minima sociaux. Près d'une personne concernée qui a recours aux banques alimentaires vit seule, une personne sur deux, et une personne sur trois est en famille monoparentale. L'âge moyen de ces personnes est de 49 ans, ce qui est un indicateur fort de situation de pauvreté grave. On notera enfin que 71% des répondants sont des femmes, les femmes qui sont beaucoup plus souvent en responsabilité dans les familles monoparentales et donc chargées de se rendre aux banques alimentaires.
Alors au-delà de ces principales caractéristiques, que nous apprend cette étude, Maxime ?
Alors le chiffre le plus frappant, celui qui est assez désespérant même, c'est celui de l'évolution. En 10 ans, le nombre de personnes qui ont recours aux banques alimentaires est passé de 800 000 à plus de 2,4 millions, soit une multiplication par 3. Le rapport parle d'une marée lente du recours à l'aide alimentaire, une marée qui ne cesse de monter.
Et est-ce que ce recours est principalement le fait des personnes sans emploi ?
Eh bien non, et c'est l'une des autres infos inquiétantes de cette étude. Un quart seulement des personnes n'ont pas d'emploi, ce qui signifie que les trois quarts des personnes qui ont recours aux banques alimentaires sont des travailleurs pauvres.
Et l'inflation dans tout ça, Maxime, alors ?
Eh bien, l'inflation apparaît comme une raison critique qui explique cette marée lente et même l'augmentation du rythme, puisque plus des deux tiers des personnes accueillies utilisent l'aide alimentaire depuis moins de 6 mois. Et près de 6 personnes sur 10 ont recours une à deux fois par semaine à ce service. L'aide alimentaire devient en fait un recours essentiel, même vital pour toutes ces personnes, qui vont d'abord vers des produits les plus chers, que sont les produits carnés, les fruits ou les légumes. Et s'il fallait absolument trouver une bonne nouvelle parmi tous ces résultats de cette étude, ce serait peut-être du côté de la composition des aides alimentaires, où la part des fruits et légumes progresse très régulièrement pour atteindre désormais un quart des produits distribués.
Alors on imagine enfin une situation sociale précaire pour toutes ces personnes, au-delà de leurs besoins alimentaires.
Oui, c'est le dernier enseignement de cette étude. 2 personnes sur 3 expriment le besoin d'être accompagnées par des services sociaux et 1 personne sur 3 participe aux ateliers qui sont proposés par ces associations. Autant de preuves de besoins évidents pour toutes ces personnes qui ont besoin de se nourrir, mais qui ont besoin aussi de rompre un isolement social souvent très fort.
Merci beaucoup Maxime Dupont. On se retrouve la semaine prochaine et on retrouve tout de suite Caroline Demallet qui est la chef du service Le Figaro Demain. Elle est notre chroniqueuse experte aléatoire. On la retrouve tout de suite dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, les experts.
Voilà, elle ne peut pas être avec nous sur le Salon de l'Agriculture cette année. On a le plaisir de la retrouver. Il s'agit de Caroline Demallet, chef de service Le Figaro Demain. Bonjour Caroline, très heureux de vous retrouver.
Bonjour Patrick.
Alors aujourd'hui, si vous êtes avec nous dans l'écho des solutions, c'est parce que Le Figaro Demain sort un supplément papier, puisque vous êtes présent toute l'année sur Internet et sur le web, mais le 6 mars prochain, vous sortez un supplément papier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver globalement dans le supplément papier qui sortira donc le 6 mars prochain du Figaro Demain?
On a un très beau sujet sur les mannequins qui s'engagent. Ce sont des mannequins qui choisissent de ne travailler que pour des marques éco-responsables. Et comme elles sont également influenceuses, puisque très présentes sur les réseaux sociaux, les marques, en fait, finissent par faire appel à elles justement pour ce positionnement qu'elles ont. Et c'est un très beau sujet qui fait la une de ce supplément.
Et puis, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, un article que vous avez mis en lumière, une action que vous avez mise en lumière sur la thérapie par l'escrime pour les femmes victimes de violences sexuelles. Dites-nous en plus, Caroline Demallet.
Il y a effectivement un papier sur l'escrime thérapeutique dédié à ces femmes qui essayent de se reconstruire, mmh. et notamment via donc le corps, le sport-thérapie, et plus particulièrement l'escrime. C'est une méthode qui a été en fait mise au point par un maître d'armes, au départ avec des médecins, avec des enfants précoces, et puis qui finalement s'est rendu compte que cette méthode, cette pratique était particulièrement adaptée à cette cible des femmes, puisqu'en fait elles sont masquées, donc d'une part elles sont elles-mêmes protégées avec leur masque, et par ailleurs elles ne voient pas le visage de la personne avec laquelle elles combattent. Elles combattent, et du coup elles peuvent identifier n'importe quel agresseur à cette personne qui est en face d'elles. Donc c'est très intéressant, et puis le maître d'armes qui m'a dédié une séance particulière pour que je comprenne vraiment bien la méthode, et c'était vraiment très intéressant, m'a expliqué qu'en fait on pouvait faire toutes les thérapies de la Terre, passer par la parole, mais quand des violences ont été vécues dans le corps, la mémoire du corps est très importante, et il faut travailler sur le corps.
Et il faut évacuer, il faut à nouveau évacuer ces violences, quitte à avoir une forme de mise à mort symbolique de l'agresseur.
Écoutez, ça passe pas forcément par là. Ce qui se passe, c'est que ce que j'ai trouvé très frappant, parce que j'ai discuté avec plusieurs de ces femmes, et même un homme, parce que les séances sont également ouvertes aux hommes, c'est qu'en fait, généralement, elles sont toutes venues pour un ou plusieurs traumatismes, parce que justement, c'est très souvent une population, en fait, qui a vécu des polytraumatismes pour la même raison originelle qui date de l'enfance. Mais ça peut se suivre, ça peut ensuite enchaîner sur du harcèlement scolaire, du harcèlement moral, etc. Et généralement, elles ont toutes fait une amnésie traumatique, en fait. Ouais, et pendant ces séances, généralement, il y a un de ces traumatismes qu'elles avaient totalement enfoui qui ressort. Et j'en ai plusieurs qui m'ont raconté ce qu'elles appellent, en fait, en fait, un espèce de grand relâchement qui arrive un jour au cours de ces séances qui se déroulent en fait sur un cycle de 10 séances par an à raison de 4 heures par mois, 4 ateliers par mois entourés par donc 2 maîtres d'armes, psychothérapeute,
et psychologue et
psychothérapeute, et voilà, et un ostéopathe, kinésithérapeute. Et en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, il y a un épisode où ça ressort. Par exemple, l'une peut pas sauter à la corde à sauter, l'autre se retrouve les yeux bandés et en panique totale, ne peut plus faire un pas. Et généralement, ça se voilà, il y en a qui m'ont raconté que ça s'est manifesté par un cri déchirant dans la salle d'armes.
Et de libération.
Là, vraiment, elles ont évacué tout ce passé qui leur pesait depuis des années. Et il y en a une qui m'a dit, voilà, cette envie de tuer que j'avais en moi, en fait, je me suis rendu compte que je me la trimballais depuis 30 ans. Et après, ben, l'une d'elles a repris sa thèse qu'elle avait interrompue parce qu'elle n'avait absolument plus confiance en elle. Un homme s'est débarrassé de ses addictions à la cocaïne, par exemple, a démissionné d'un poste qui était, en fait, dans un environnement maltraitant pour lui. L'autre, il y en a, bon, voilà, on peut pas dire que c'est une méthode miracle, mais c'est souvent une étape très, très importante dans la vie de ces gens pour se reconstruire. Et malheureusement, il y en a beaucoup trop peu. Et c'est vraiment important et ça serait bien que ça se développe.
Merci.
En fait, et que ce soit connu.
Merci beaucoup, Caroline Demallet. On vous sent passionnée par cet article. J'espère que vos lecteurs, le 6 mars, le seront tout autant que vous. En tout cas, de très beaux sujets à lire le 6 mars prochain dans la version papier du Figaro demain. Et puis, bien évidemment, à retrouver tous les jours de la semaine, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, sur le site web du Figaro.
Et dès ce
week-end pour ce supplément sur le site web. Merci beaucoup Caroline Demallet. Nous on continue tout de suite l'écho des solutions. Merci.
Merci Patrick.
À très bientôt. Au revoir.
7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
Voilà, on est toujours sur le salon de l'agriculture, mais en distanciel avec notre ami Alain Lehébel, gérant, cofondateur d'une entreprise guérandaise qui propose un géotextile qui capte l'eau. Bonjour Alain Lehébel.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va évoquer Matelot. Matelot, je le disais à l'instant, c'est un géotextile qui permet de capter l'eau et finalement de réduire l'arrosage de nos plantations. Et en cette période de sécheresse, on sait ô combien ça peut être important. Racontez-nous un peu l'histoire de Matelot. Comment est née cette idée? Je crois qu'elle est, c'est une idée qui est assez belle à la base.
Comment est né Matelot? Tout simplement d'une observation d'un jardinier qui, après avoir labouré et ensemencé sa pelouse, s'est rendu compte l'été suivant, qui était un été de grande sécheresse, que sa belle pelouse qu'il avait semée, ensemencée, qui avait poussé, était devenue un paillasson. sauf un endroit qui, lui, restait vert. Alors, je lui dis, écoute, ce petit rond qui reste vert, si j'étais toi, je regarderais ce qu'il y a dessous, quand même. Il y a retrouvé un chandail qu'il avait perdu lorsqu'il avait semé sa pelouse. Et ce chandail, pendant cet été très sec, a permis, comme au végétal qui était au-dessus, de survivre à cette grande sécheresse. Il a redonné de l'eau.
Il a fallu combien de temps pour développer ce produit qui a débouché, je crois, sur un brevet ?
Ça a mis 3 ans à peu près. 3 ans où j'ai travaillé avec une école d'ingénieurs qui est spécialisée dans les matériaux, enfin le département matériaux, qui s'appelle l'ICAM à Nantes.
Alors l'Institut catholique des arts et métiers, hein, bien connu. Des ingénieurs, voilà. Et des futurs ingénieurs.
Et des futurs ingénieurs, tout à fait, qui m'ont permis, avec qui j'ai pu mettre en place un matériau. Et ensuite, pour aller beaucoup plus loin, il me semblait tout naturel d'aller voir les gens de l'INRA, qui sont quand même spécialisés en agronomie, et qui, eux, ont pu tester le matériau de Matelot, le mesurer la réserve d'eau qu'il pouvait fournir, m'assurer qu'il n'y avait pas de toxicité pour les plantes, qu'il n'y ait pas d'impact au niveau des sols.
Alain Lehébel, quels sont les matériaux que vous utilisez pour pouvoir générer en fait ce géotextile
qui va permettre de capter l'eau.
Donc ce matériau, nous en avons deux. Un premier qui est à base de bouteilles de plastique recyclées, hein, et d'un polymère naturel qui est super absorbant. Mmh. Et nous avons un deuxième matériau qui est un PLA à base d'amidon, et qui, là, lui, est complètement biodégradable.
À destination de qui s'adresse Matelot ? Vous me l'avez un peu dévoilé, à la fois le particulier qui n'a pas envie de trop arroser ou qui part en vacances, mais aussi les collectivités locales ?
Tout à fait. Je dirais que le particulier, c'est super intéressant, puisque je me souviens très bien, moi, du début de mes vacances, où il fallait toujours demander aux voisins de venir arroser les plantes ou alors les mettre dans la baignoire ou dans un grand bac plein d'eau. Alors qu'avec Matelot, vous allez diviser votre fréquence d'arrosage par 3, voire par 4. C'est-à-dire qu'une plante que vous allez arroser une, deux fois dans la semaine, même si elle reste 3 semaines sans arrosage, ne va pas dépérir.
Alors, est-ce que le risque, il n'est pas un peu aussi des fois d'arroser trop, parce qu'on sait bien que les plantes, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient dans des jardinières ou sur les espaces publics, n'ont pas toutes besoin de la même fréquence d'arrosage, c'est-à-dire qu'il faut aussi calibrer la fréquence d'arrosage en fonction de la plante. Là où une plante a besoin d'être arrosée, mettons, tous les jours, on l'arrose tous les 3 jours. Une plante qui a besoin d'être arrosée toutes les semaines, on l'arrose toutes les 3-4 semaines.
C'est ça, c'est ce que me disait un employé d'une petite commune du Morbihan qui nous disait, nous, on passait pour arroser toutes nos plantes en balconnière et en jardinière, etc. On passait 4 fois par semaine pour les arroser. Depuis que nous utilisons Matelot, nous passons une fois, il était vraiment très chaud, voire 2 fois pour certaines plantes, mais c'est un gain de temps qui est énorme. Et il me disait, c'est une petite commune. Nous, par semaine, on gagne jusqu'à 2000 litres d'eau.
Ce qui est énorme.
Et le temps qui est passé, la quinzaine d'heures qui est passée à arroser toutes ces plantes, etc., nous, on l'emploie à d'autres tâches qui sont beaucoup plus des tâches classiques pour les jardiniers que nous sommes.
Ouais, alors où est-ce qu'on peut... Alors c'est extrêmement intéressant parce que au-delà de l'économie d'eau, finalement on fait aussi une économie de temps de travail, ce qui permet aux collaborateurs des villes de se reconcentrer aussi sur l'essentiel qu'est leur activité, qu'est le jardinage. Où est-ce qu'on trouve ce matériel un peu miracle dont je dois avouer c'est la première fois que j'entends parler alors que l'entreprise existe depuis 10 ans?
Alors ce matériel, eh bien, on peut le trouver dans les jardineries pour le particulier, certaines jardineries, Jardinland, Truffaut, Villa Verde, etc. Et ce sont surtout, les distributeurs spécialisés auprès des collectivités qui, eux, sont nos plus gros clients. Nous avons, malgré tout, des collectivités maintenant qui connaissent Matelot, puisque nous avons participé à quelques salons professionnels où nous avons été distingués en ayant des prix d'innovation dans le domaine du végétal et des espaces verts, etc.
Donc on peut vous retrouver sur quel site si on a envie de prendre contact avec vous et d'acheter du Matelot?
Alors on tape matelot.fr, le site matelot.fr.
Merci beaucoup Alain Lehébel d'avoir été notre invité de cette 7 minutes pour changer le monde. On termine en beauté ce salon de l'agriculture. Et on se retrouve bien évidemment dans toutes les jardineries pour acheter du Matelot. Merci beaucoup Alain Lehébel.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'écho des solutions. On se retrouve la semaine prochaine dans un studio peut-être un peu plus calme que celui du Salon de l'Agriculture. Dans tous les cas, vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr ou sur toutes les plateformes de podcast dédiées. Merci à vous toutes et à vous tous. À très bientôt. Au revoir.